Donc, nous lisons dans Luc chapitre 14. Du verset 25 à 35. Luc chapitre 14, verset 25 à 35. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se tourna vers ceux qui le suivaient et leur dit : Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier qu'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin ? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est lui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre, ne prendrait-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur ? On ne peut plus l'utiliser, ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'y a plus qu'à le jeter. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Et en deuxième texte, dans l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 9, et là, nous allons simplement lire deux versets. Marc chapitre 9, et là, nous allons lire verset 49 et le verset 50. Verset 49. En effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est inutile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Nous relisons le verset 49. En effet, chacun doit être salé de feu. Amen. Bien, alors, souriez, soyez dans la joie, hein, parce que sinon, ça va être long. Montrez que vous êtes content d'être là. Voilà. Alors, dans la vie, vous le savez tous, nous le savons tous, il est toujours important de réussir à jouer son bon rôle. Dans une famille, c'est important que les parents jouent leur rôle de parents, de protéger, de nourrir leurs enfants, de s'occuper d'eux, de les éduquer, de les nourrir, de les blanchir. Et il est important que les enfants soient des enfants. Dans une famille, encore une fois, il y a un rôle particulier pour les parents. Les parents ont un rôle particulier, mais qui est différent du rôle des grands-parents. Et les parents ont un certain rôle qu'ils doivent tenir, et les grands-parents ont un autre rôle qu'ils doivent tenir. Ça me fait penser à une histoire qu'Evelyne me racontait une fois. Je ne peux pas la raconter devant tout le monde. C'est rien de spécial, mais bon, c'est à utiliser. Donc, les parents, ils ont un certain rôle vis-à-vis de leurs enfants, et les grands-parents ont un autre rôle. Et c'est important que chacun fasse exactement son rôle. On ne peut pas confondre les rôles de chacun. Dans une société, le bourgmestre, il a une certaine fonction, et un juge, il a une autre fonction. Le bourgmestre ne peut pas faire le travail du juge, et le juge ne peut pas faire le travail du bourgmestre. C'est important de jouer son bon rôle. Dans une famille, encore une fois, on a parfois des parrains ou des marraines pour les enfants, mais le parrain ou la marraine, il a un rôle différent que celui des parents. Donc, à chaque fois, on voit à quel point dans notre monde, dans notre société, c'est important que chacun joue son rôle. Chez un boulanger, on va chercher du pain, pas un gigot d'agneau. Mais en même temps, chez le boucher, on va pas chercher un croissant. Chacun a un rôle déterminé et chacun doit rester dans son rôle. Et dans les deux textes que nous avons lus, eh bien, Jésus nous parle d'un rôle particulier que l'Église doit avoir, être le sel. Alors, Francis tout à l'heure a parlé d'être la lumière, et là, dans les deux textes, Jésus nous parle d'être le sel. Le rôle de l'Église, c'est d'être le sel de la terre. Et Jésus va très loin, puisqu'il parle à plusieurs reprises de cette fameuse question d'être le sel, et il dit, dans le texte que nous avons lu de Luc, que si jamais le sel devient insipide, on ne peut plus l'utiliser, ni pour la terre, ni pour le fumier, il n'y a plus qu'à le jeter. Ça veut dire que si jamais nous ne jouons pas notre rôle d'être le sel de la terre, nous ne servons plus à rien. Quelqu'un qui a un certain rôle et qui s'amuse à jouer le rôle de quelqu'un d'autre n'est plus utile. Un boucher qui commencerait à vendre des croissants, plus personne n'irait chez lui. Peut-être pour acheter des croissants, et encore, parce qu'on se dirait que c'est peut-être pas le mieux placé pour faire des croissants. On préférerait aller chez le boulanger parce que lui, c'est vraiment son métier. Donc l'Église est appelée à être le sel de la terre. Mais si l'Église n'est pas le sel de la terre, elle ne sait pas jouer le rôle que Dieu l'a appelée à jouer dans la société. Et c'est vrai d'une façon globale en tant qu'Église, mais c'est vrai aussi en tant qu'individu. Si je ne suis pas le sel comme Dieu veut que je sois le sel, je ne sais pas faire ce pour quoi Dieu m'envoie, je suis inutile. Inutile, dit Jésus, c'est Jésus qui le dit. Le sel qui perd sa saveur devient inutile. Si vous avez chez vous un sel qui ne sale plus, vous n'allez plus l'utiliser. Si l'Église n'est plus ce qu'elle doit être, eh bien, elle devient inutile, elle ne sait pas jouer le rôle que Dieu l'appelle à jouer. Alors, dans la Bible, le sel, ça a deux sens. Le sel, il sert d'abord, comme pour nous tous, à donner de la saveur, à donner du goût aux aliments. Mais le sel servait aussi à protéger les aliments, à conserver les aliments. Et ce qui est particulier, c'est qu'en Palestine, le sel contenait beaucoup de cristaux qui n'avaient pas de pouvoir salant, donc qui ne salent pas. Et donc, quand le sel est exposé à l'humidité, au froid, enfin à l'humidité, vous savez ce que c'est l'humidité. Eh bien, ce qui est salant dans le sel disparaît, il ne reste plus que les cristaux non salants. Et du coup, le sel resté à l'humidité n'a plus de goût, n'est plus du sel. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit, ce sel-là, il n'est plus, on ne sait rien en faire, on ne sait pas l'utiliser pour le fumier, pour la terre, on doit simplement le jeter. Et c'est essentiel que pour nous aussi, nous comprenions que Dieu nous appelle à être le sel de la terre. Comme individu tout seul, comme Église, nous sommes appelés à être le sel de la terre. Et nous devons nous attacher avec hargne, avec détermination à être ce sel, parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes bons à jeter par terre, nous ne servons à rien, et nous ne pouvons pas être ce sel, cette lumière que Dieu nous appelle à être. Lorsqu'on perd son sel, on devient fade, on devient des chrétiens fades, on devient des églises fades. Être un chrétien fade, c'est être un chrétien qui n'est plus caractérisé par son amour pour les autres. On ne sait plus, on arrive. Normalement, un chrétien, c'est la caractéristique qu'on doit pouvoir lui mettre, lui coller dessus, c'est l'amour. Une église, on doit pouvoir coller sur elle comme caractéristique, c'est l'amour. Lorsque le chrétien perd cette flamme d'amour pour les autres, pour Dieu d'abord, il devient un chrétien fade, une église fade. Nous devenons des chrétiens fades lorsque nous perdons les valeurs de la parole de Dieu, lorsque nous abandonnons progressivement ce qui fait les valeurs de la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Au plus nous les abandonnons et nous les remplaçons par ceux du monde, par les habitudes du monde, au plus nous devenons fades. Parce que si Dieu nous a appelés à être l'Église, c'est pour être attachés à sa parole, à sa volonté. Et lorsque nous abandonnons sa parole, d'une façon ou d'une autre, nous ne jouons plus notre rôle, nous devenons des chrétiens fades. Je suis un chrétien fade lorsque j'oublie ma vocation d'être un artisan de paix autour de moi, un agent de la réconciliation. Je suis un chrétien fade quand j'oublie que Dieu m'appelle à vivre dans la sanctification. Je suis un chrétien fade lorsque j'ai perdu ma soif du Seigneur. Ma soif du Seigneur. Vous avez déjà lu les psaumes de David ? Comme brame le cerf auprès des courants d'eau. Ainsi, je crie à toi. Mon âme a soif de toi. L'âme de David a soif d'être plus près de Dieu, plus dans sa volonté, plus à l'écoute de sa voix, plus dans son temple. Je deviens un chrétien fade lorsque je perds ma soif, mon amour pour Dieu. Je peux aussi être un chrétien fade si je renonce à jouer mon rôle de témoin de la vérité. Le témoin de la vérité de celui qui est là pour être fidèle à une certaine vérité que Dieu a révélée dans sa parole et pour proclamer cette vérité-là. Je deviens un chrétien fade, inutile, je ne sers plus à rien. Je deviens un chrétien fade lorsque je repousse la présence du Saint-Esprit ou son action, son œuvre. Lorsque je me mets à compter sur mes propres capacités plutôt qu'à demander à Dieu qu'il agisse au travers de son esprit, dans son église, en nous. Je deviens un chrétien fade lorsque je perds mon zèle missionnaire, mon zèle pour le témoignage, pour l'évangélisation. Lorsque les perdus ne touchent plus mon cœur. Je deviens un chrétien fade lorsque mon église devient un club rassemblé autour d'une idée, autour de petits projets, autour d'une culture, de petites affinités, et lorsque mon église n'est plus ce lieu, non seulement où la parole de Dieu est proclamée dans toute sa vérité, où l'amour de Dieu est vécu, où l'atmosphère du Saint-Esprit touche chacun. Nous avons besoin, nous devons nous battre pour être ces enfants de Dieu qui cherchent à rester le sel, à rester pleinement ce qu'ils sont appelés à être. Et dans les deux textes que nous avons lus, eh bien Jésus nous donne tout un ensemble de conditions, de principes pour être le sel. C'est un petit peu comme s'il répondait à la question « comment être le sel ?» Dans le texte de Luc, il va nous donner un certain nombre d'enseignements pour nous aider à être le sel. Et dans le texte de Marc, il nous en donne un autre pour pouvoir être le sel. Dans le premier texte, dans le texte de Luc, Jésus parle de l'engagement du disciple. Et il fait un lien entre l'engagement du disciple et le fait d'être le sel. Ce n'est pas anodin si c'est écrit à la suite. Jésus vient montrer le lien qu'il y a entre être pleinement un disciple et être pleinement le sel. Nous ne sommes pleinement le sel que lorsque nous sommes pleinement des disciples. Et Jésus, dans le texte de Luc 14, nous détaille ce qu'il faut pour être un vrai disciple. Il y a trois grandes lignes, vous les connaissez, on en parle tout le temps, trois grandes lignes pour être un vrai disciple. Quand on était à l'école secondaire, il y avait ce qu'on appelle le trépied. Vous avez connu ça, le trépied. Donc, non mais non, on ne parle pas de la même chose. C'est quoi pour vous le trépied ? Non, c'est pas ça. En fait, à l'école secondaire, le trépied, c'était les trois matières les plus importantes. Donc, maths, langue et français. Maths, langue et français. Et donc, en fait, quand on avait plus d'un échec dans ces matières-là, on savait bien que c'était foutu, on était en échec. Donc, le trépied, ce sont les trois grandes choses importantes qu'il ne faut surtout pas rater. Eh bien, dans le texte de Luc, Jésus nous donne le trépied du disciple. Les trois grandes lignes de ce que le disciple doit être s'il veut pleinement être le sel. D'abord, il nous dit renoncer à soi-même, porter sa croix et le suivre. Le disciple est caractérisé par le fait que, premièrement, il renonce à lui-même, il porte sa croix et il le suit. Premièrement, renoncer à soi-même. Et Jésus ne commence pas par le fait de renoncer à soi-même. Il vient directement nous attaquer au plus profond de nous-mêmes en nous disant « Celui qui ne peut pas renoncer à sa femme, à ses enfants, à sa famille pour me suivre, n'est pas digne d'être mon disciple. » Donc, il commence en nous montrant que nous devons être caractérisés par la préférence, le droit de préférence que nous donnons à Dieu dans notre vie. Le droit de préférence, le droit de priorité que Dieu a dans notre vie. Ça, c'est la première branche du trépied. Je dois être capable de renoncer à moi-même, et renoncer à moi-même, ça veut dire donner à Dieu la priorité. Souvent, en réalité, le texte original dit « si quelqu'un ne hait pas sa femme, ses enfants, il ne peut pas me suivre ». Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que dans la langue où Jésus parle, on ne sait pas dire qu'on aime une chose plus qu'une autre. Vous voyez ? Donc, on ne sait pas dire je préfère les haricots à la salade. On va dire je déteste la salade. Vous comprenez l'idée? Donc on n'a pas la même façon de parler des superlatifs et de montrer les comparaisons d'affection qu'on a avec les choses. Donc en fait, ce que Jésus veut dire, c'est que nous devons préférer le Christ, sa volonté, son plan pour nous, à toute autre chose, tout simplement. J'aime bien rappeler que le général William Booth de l'Armée du Salut, vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler de lui, un jour on lui a posé la question de savoir quel était le secret du succès de l'Armée du Salut. Comment est-ce que ça se faisait que l'Armée du Salut avait aussi bien marché, avait autant fait du bien? Et il a répondu ceci avec le visage rempli de larmes. Il dit donc à la personne qui l'interroge, « Je vais vous dire le secret. Dieu a eu en moi tout ce qu'il y avait à prendre. » Ça, c'est la première phrase. On lui demande comment l'Armée du Salut, il répond, « Dieu a eu en moi tout ce qu'il y avait à prendre. » Il peut y avoir des hommes avec de plus grandes possibilités, mais depuis le jour où j'ai eu à cœur de combattre la misère des pauvres de Londres, avec la vision de ce que Jésus pouvait faire, j'ai résolu que Dieu aurait tout ce qu'il y a de William Booth. Si l'Armée du Salut a acquis une certaine puissance aujourd'hui, c'est parce que Dieu a eu toute l'adoration de mon cœur, tout le pouvoir de ma volonté et marqué toute ma vie de son influence. Dieu a eu toute l'adoration de mon cœur, tout le pouvoir sur ma volonté, et Dieu a marqué toute ma vie de son influence. Alors vous imaginez bien ce que certains se sont dit, ce que vous vous dites dans vos petits cœurs là maintenant. Ah, Christian, vous êtes en train de vous dire, il est quand même un petit peu orgueilleux hein, celui-là. Ça ne se dit pas. Et pourtant, bon, voilà comment est-ce qu'il a voulu expliquer sa consécration au Seigneur. Alors, ça nous montre à quel point est-ce que nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui sont prêts à donner à Dieu tout ce que nous sommes, toute notre énergie, toute notre consécration. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu mérite toute l'adoration de notre cœur. Il mérite tout le pouvoir sur notre volonté et une influence totale sur notre vie. Ça veut dire que Jésus doit disposer d'un droit de préférence par rapport à toutes mes relations, à tous mes projets, à tous mes intérêts, à toutes mes opinions. Jésus doit disposer d'un droit de préférence, un droit de priorité. Première branche du trépied. Deuxième branche, porter sa croix. La première, c'était renoncer à soi-même. La deuxième, c'est porter sa croix. Porter sa croix, c'est accepter les sacrifices nécessaires, accepter la souffrance nécessaire, pas la souffrance que nous nous infligeons pour souffrir, mais la souffrance nécessaire pour pouvoir continuer à suivre le Christ. Accepter sa croix, c'est accepter de reconnaître publiquement que l'on marche à la suite du Christ, et d'accepter tout le rejet et la persécution que ça peut nous causer dans le monde où nous sommes. Prendre sa croix, porter sa croix, c'est accepter d'être ridicule, d'être moqué, d'être méprisé. Moqué parce que je suis Jésus. Moqué parce que, pour les jeunes, je ne vais pas en boîte de nuit. Moqué parce que, pour les travailleurs, je refuse de mentir. Moqué parce que je refuse de rire à certaines blagues. Moqué parce que je refuse de trafiquer les factures. Moqué parce que je ne veux pas m'adonner à certaines pratiques. Je porte ma croix chaque fois que je m'engage à la suite du Christ et que je supporte le rejet, la persécution, la moquerie qui peut naître du fait que je suis Jésus. Porter sa croix, c'est montrer publiquement notre soumission à Christ. Et cet engagement à porter notre croix, il dépend. Pour chacun d'entre nous, ça veut dire autre chose. Nous n'avons pas tous la même croix à porter. Pour certains, c'est dans leur travail, pour d'autres, dans leur famille. Et graduellement, selon le mode fixé par Dieu pour chacun, eh bien, nous avons apporté notre croix. Et troisième branche du trépied qui nous est dit dans Luc chapitre 14, c'est s'engager à suivre Jésus. S'engager à suivre Jésus. S'engager à marcher dans ses pas, à marcher dans ses voies, à faire sa volonté, à suivre ses commandements. Nous avons besoin non seulement d'être capables de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix, ce qui est pénible, ce qui est difficile, les sacrifices nécessaires de notre marche avec Dieu, et d'accepter aussi de le suivre, de suivre le Christ. Il y a un frère qui parlait il n'y a pas longtemps de quelque chose, c'est qu'il avait une relation particulière avec le fait d'être propriétaire. C'était quelque chose pour lui qui était très 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 important. Très 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 important, et il sentait bien que c'était quelque chose d'un peu malsain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas, il le dit bien, lui, quand il parle, il dit « je ne dis pas ça pour les autres, je ne dis pas ça pour tout le monde ». Mais moi, personnellement, je savais bien que j'avais une relation vraiment malsaine avec cette idée de posséder une maison. Pour moi, c'était vraiment une sorte de fantasme, une sorte de… voilà. Et il s'est rendu compte à quel point c'était pour lui un sacrifice nécessaire pour suivre le Seigneur. Et c'est pour lui. Chacun, pour nous-mêmes, nous avons notre propre voie, notre propre croix, nos propres sacrifices à faire pour être pleinement disciples. Chacun sa propre voie. Premier texte, Jésus nous dit, si nous voulons être le sel, nous devons être des vrais disciples. Pour être des disciples, je dois pouvoir renoncer à moi-même, porter ma croix et le suivre. Et dans le deuxième texte, vous l'avez lu, et si vous n'avez pas été interrogé par ce qui est dit dans ce texte-là, c'est que vous avez un problème. Enfin, vous avez un problème. La question n'est pas là. Vous avez tous un problème. Sauf moi. Marc 9, 49. En effet, chacun doit être salé de feu. Vous avez tous compris ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Faut être honnête. À la première lecture, ça ne veut strictement rien dire. Ah, Tina, s'il te plaît, respecte un petit peu le rythme de tout le monde. T'as déjà dit la fin. Quoi, je l'explique ou je ne l'explique pas finalement? Ça ne sert à rien, tu l'as déjà dit. Pas grave, Tina, on te pardonne. Mais effectivement, chacun doit être salé de feu. Ça a eu beaucoup d'interprétations parce que le texte n'est pas facile. Ça fait partie des versets les plus compliqués du Nouveau Testament. Compliqué parce que le sens des mots qui est utilisé peut avoir plusieurs sens, premièrement. Et puis compliqué parce qu'il est inséré dans une péricope où on peut vraiment se poser la question de ce que ça veut dire. Il y en a certains qui ont pensé, certains exégètes, qui ont dit que le feu dont il est question, c'est le feu du jugement, le feu de la GN, le feu de l'enfer, le feu dans lequel seront consumés ceux qui n'ont pas cru au Fils de l'homme. Il y en a d'autres qui ont dit, mais non, ce feu en question, c'est le feu des épreuves dans la vie du croyant, les différentes épreuves que nous vivons, qui sont un feu pour nous. Et en réalité, quand on lit le texte, ce verset-là, dans son contexte, on se rend compte qu'effectivement, ce feu-là, c'est l'œuvre de purification que Dieu fait dans la vie du croyant. C'est l'œuvre par laquelle, comme le dit Tina, par son esprit, Dieu purifie le croyant de tout ce qui en lui l'empêche d'être pleinement à l'image du Christ. Et pourquoi est-ce qu'on le sait? C'est parce que juste avant, Jésus est en train de nous parler du fait que si quelqu'un, si tu penses que ta main peut t'emmener dans le péché, coupe-la. Si tu penses que ton pied peut te faire tomber dans le péché, coupe-le. Donc le contexte nous enseigne qu'effectivement, ce feu dont il est question dans cette péricope-là, c'est le feu purificateur du Saint-Esprit qui vient en nous pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, dans notre personne, pour détruire toutes les choses qui nous empêchent d'être pleinement disciples et d'être pleinement le sel. Et en réalité, quand Jésus dit que chacun doit être salé de feu, ça veut dire que lorsque le feu de l'Esprit vient en moi pour consumer ce qui n'est pas de Dieu, eh bien c'est là que je commence à avoir du goût. Plus ce feu consume ce qui n'est pas de Dieu, plus je suis salé. Chacun doit être salé de feu. Donc le feu me sale, le feu me donne du goût. Cette purification par le Saint-Esprit nous donne du goût. Et bien plus que ça, on a d'autres versets qui nous confortent dans l'idée que c'est bien le sens à donner à ce verset-là. C'est que Lévitique 2, verset 13 nous dit que tu saleras donc toute oblation, donc toute offrande que tu présenteras, et tu ne laisseras point ton oblation manquer du sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes, tu offriras du sel. Donc ça veut dire que dans l'Ancien Testament, toutes les offrandes étaient salées. On n'apportait pas d'offrande sans y mettre du sel. Et donc, ça nous conforte dans cette idée que ce sel-là, c'est ce sel qui nous permet de nous offrir à Dieu en lui étant agréable. Ce feu consume, purifie ce qui n'est pas de Dieu en nous et nous sale, c'est-à-dire nous rend agréable à Dieu. Au plus ce feu entre dans ma vie, au plus ce feu me purifie, au plus je commence à avoir du goût. Et je commence à pouvoir jouer mon rôle d'être disciple du Christ. C'est ce feu au travers duquel Dieu nous purifie, au travers duquel il retire de nous tout ce qui n'est pas de lui, qui nous permet de nous offrir à Dieu en sacrifice vivant et pur. Romains 12, verset 1. Le feu du Saint-Esprit qui nous purifie. C'est un feu qui nous consume, qui consume notre attachement malsain à l'argent pour certains d'entre nous. Nous savons qu'il y a en nous quelque chose de malsain vis-à-vis de l'argent. C'est un feu qui va consumer, par exemple, ce qui nous tient vis-à-vis de l'argent. C'est un feu qui peut nous faire sortir de notre égoïsme, de notre égocentrisme, de notre recroqueviment sur nous-mêmes, notre obsession de nous-mêmes. Un feu qui peut consumer notre orgueil. Un feu qui nous délivre de tout ce qui nous rendait captifs. Un feu qui nous fait sortir du mensonge. Un feu qui attise notre soif pour la parole de Dieu. Un feu qui attise notre soif pour la prière. C'est un feu purificateur, le feu purificateur du Saint-Esprit. Au plus le croyant laisse son intimité avec le Seigneur faire grandir ce feu en lui, au plus il est purifié et au plus il commence à avoir du goût. Le premier texte nous a dit, si nous voulons être le sel, si nous voulons jouer notre rôle, nous devons renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et le suivre. Et le deuxième texte nous dit, si nous voulons être des disciples, si nous voulons être le sel, jouer notre rôle dans ce monde, dans notre famille, nous devons être capable de nous laisser purifier par le Saint-Esprit. Et vous comprenez donc maintenant, les yeux ébahis, vous comprenez donc ces chants que nous avons dans À toi la gloire, dont ce beau chant « Brûle, brûle, flamme ardente, flamme ardente dans mon cœur, brûle et comble mon attente de lumière, de chaleur, brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vis en moi, vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Brûle, brûle, flamme claire, feu divin. Mon désir est de te plaire, d'accomplir tout ton dessein. Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vis en moi. Vois ma volonté.
se plie à la tienne par la foi.
Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence dans nos vies. Et nous voulons vraiment te remercier parce que tu nous as donné un rôle en tant qu'individu, en tant qu'Église, celui d'être sel de la terre. Et Seigneur, merci parce que tu nous révèles dans ta parole comment être le sel. Et nous voulons, Seigneur, laisser ces paroles descendre dans notre cœur. Nous voulons non seulement être de véritables disciples, capables de renoncer à eux-mêmes, de porter leur croix, de te suivre, mais nous voulons aussi laisser, Seigneur, ton esprit nous purifier de tout ce qui est éventuellement n'est pas de toi, de tout ce qui nous empêche de marcher, de tout ce qui, dans notre cœur, est encore charnel, mondain. Seigneur, nous voulons vraiment accueillir ce feu purificateur de ton esprit. Et Seigneur, nous n'avons pas peur parce que nous savons que tu es ce Père qui nous aime. Ce n'est pas un feu pour nous détruire, ce n'est pas un feu pour nous faire du mal, c'est un feu pour nous rendre libres, pour nous purifier et pour que nous puissions être ce sel de bon goût qui donne du goût, qui conserve. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la donne la retrouvera. Seigneur, nous savons que tout ce que nous abandonnons pour toi, tu nous le rends, tu nous rends ce que nous perdons et tu nous permets, Seigneur, de recevoir pleinement ta vie en nous. Alors Seigneur, nous voulons te prier pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à être le sel de la terre. Aide-nous à être le sel, à donner du goût, à conserver. Aide-nous à donner du goût dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'études, dans notre église. Seigneur, que nous puissions donner ce goût que tu nous as appelé à donner. Merci Père pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Amen.